RMC Intégral Tour.
Cette grande hutte est la demeure du chef incontesté du village, le redoutable
Christophe Cessieux.
Mais c'est moi qui dois être sur ce bouclier. Je suis le chef après tout.
C'est vrai, c'est moi le chef, messieurs, qu'on se le dise, messieurs, dames, qu'on se le dise sur la route du Tour de France, l'intégral Tour sur RMC, évidemment, l'intégral de cette sixième étape entre Abbeville et Le Havre, 191 500 km. Et à ce rythme-là, on n'est pas couché, messieurs, dames, car le peloton prend son temps aujourd'hui. Il a beaucoup donné depuis le départ de Utrecht samedi dernier. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis le départ, eh bien, on prend son temps, puisqu'on a quasiment 20 minutes de retard sur le plus mauvais horaire, ce qui nous donne, si le peloton n'accélère pas d'ici les minutes qui viennent ou l'heure qui vient, une arrivée aux alentours de 18h, un petit peu avant 18h, Fred. Mais rassure-nous, ça va accélérer quand même, à un moment donné.
Assurément, mais on ne va pas rattraper le retard comme ça, c'est sûr. On est à 73 km de l'arrivée et le trio de tête est toujours à 4 minutes 30. Ça veut dire que l'on prend son temps aussi à l'avant de la course. Le trio de tête toujours composé, on vous le rappelle, du français Perrick Kemener chez Europcar, du belge Kenneth Van Bilsen pour Cofidis et de l'érythréen Daniel Tekleimanot de l'équipe sud-africaine MTN Kubeka. Tekleimanot que l'on a vu s'arrêter pour une pause pipi il y a quelques instants. C'est assez rare de voir dans les échappées un coureur s'arrêter pour satisfaire des besoins naturels. Qu'est-ce qu'il y a, Luc? C'est Daniel Tekleimanot qui s'arrête pour pipi.
J'étais obligé de m'arrêter moi aussi. C'est pareil.
Parce que tu t'endormais au volant.
Non, mais pisser sur le vélo et la sortir sur le vélo, moi j'y arrivais pas moi. Non mais c'est vrai en plus. Voilà. Ouais, mais il y en a plein qui le font sur le vélo. Moi j'y arrivais pas. J'étais obligé de m'arrêter. C'était une angoisse.
Il allait te cacher derrière un arbre en plus.
Il fallait en trouver un déjà. Il fallait en trouver un.
Bon. Tiens, on parle de ça. Le communiqué d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, on épluche les communiqués pour voir qui est blessé, qui a commis des irrégularités et victimes d'amendes. Il y a eu des coureurs hier qui ont été punis et amendés par la direction des commissaires. 1, 2, 3, 4, 5 coureurs ont été
Joachim Rodriguez
à l'amende pour comportement incorrect en public, c'est-à-dire
ils n'ont pas le droit de
Mais le problème c'est qu'il y a tellement de monde sur la route, comment veux-tu t'arrêter?
Messieurs, nous allons retrouver Georges Quirino sur la moto avec Marco, il a du client dans au micro là du directeur sportif.
Exactement, oui, avec le grand sourire de Stéphane Auger, le directeur sportif de la formation Cofidis, qui est avec nous, qui suit Kenneth Van Bilsen, qui est dans l'échappée. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bon, c'est un nouveau tour qui a commencé aujourd'hui pour vous, avec l'abandon de Nasser hier. Il faut réfléchir autrement, on va dire, pour vous.
Oui, voilà, il faut réfléchir autrement. Bon, hier déjà, on est content des garçons, parce que même sans Nasser, ils ont voulu essayer d'aller faire le sprint. Bon, bien sûr, Geoffrey Soupe, il fait 11e. Mais bon, voilà, l'intention y était. Ça repart de plus belle. Bon, et puis maintenant, voilà, on n'a pas fait encore beaucoup d'étapes sur ce tour. On n'est pas à la moitié. Donc, il faut vite se remobiliser. Et voilà, on peut changer le fusil d'épaule.
Quelle a été l'ambiance à l'hôtel hier soir? On sait que Nasser était là, il a donné une conférence de presse. C'est comment l'ambiance?
Non, franchement, ça a été on était un peu les coureurs, on est là pour les soutenir dans ces moments-là. Bon, après, voilà, et le tour continue. On a eu un abandon, c'est notre leader, mais on a encore 8 coureurs. D'ici l'arrivée, il y a de l'eau qui va passer sous les ponts. Nous, on croit en eux, on croit faire de bonnes choses. Donc voilà, il faut vite se remobiliser, d'où l'échapper aussi aujourd'hui. Vous voyez, c'est pour redonner un peu d'engouement et de ferveur à l'équipe. Et là, ça repart sur des bonnes bases.
Merci beaucoup Stéphane Auger, directeur sportif de la formation Cofidis. Oh, il a le sourire, ça veut dire que allez, on est reparti sur un autre tour pour la formation Cofidis. Maintenant donc avec Kenneth Van Bilsen, notamment le belge de l'équipe nordiste, qui est dans cette échappée devant nous.
C'est vrai que la déception est évidemment immense pour cette formation, Cyril, la formation Cofidis qui avait tout misé sur ce tour en la personne de Nasser Bouhanni. Lorsqu'on a comme ça son leader qui disparaît au bout de même pas une semaine de course, c'est difficile de retrouver d'autres d'autres objectifs, mais il faut tout retrouver. Il faut retrouver la niaque, parce que le Tour de France est primordial pour toutes les équipes et surtout pour les équipes françaises, dans l'espoir évidemment, quand on est la formation Europcar, de trouver un nouveau sponsor ou de le conserver quand on est les autres équipes, parce qu'il faut à tout prix se montrer sur les routes du Tour et faire des choses, avoir des résultats.
Oui, il faut avoir des résultats, c'est ce qui paye le plus. Se montrer, c'est mieux que de ne rien faire du tout, mais il faut savoir que le Tour de France, pour les retombées, on va dire, les retombées économiques par rapport à l'investissement, le Tour doit représenter à peu près à lui seul 85%.
85%.
Ben oui, c'est là où on est en mondiovision quand même. On est là sur le reste de la saison, c'est ce qui va alimenter, on va dire, toute la communication par rapport au Tour. D'ailleurs, on est bien placé pour le savoir, c'est que quand vous faites le critérium du Dauphiné, on va parler du critérium du Dauphiné, mais à chaque fois, on va se rapporter au Tour. Mm-hmm. Ah, Nibali n'était pas très bien là sur le Dauphiné. Est-ce qu'il sera bien pour le Tour de France? Ah, on a revu Froome. Ah, il a fait un beau final. Ah ben ça promet pour le Tour. C'est-à-dire que toutes les autres courses, j'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, sont considérées, on va dire, par l'ensemble des médias, mais aussi par le public, sont considérées comme des courses de préparation pour le Tour de France.
Il ouais. y a finalement que les classiques, et notamment Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres, qui elles ne sont pas considérées comme des galops d'essai avant le Tour de France, parce que ce ne sont pas les mêmes coureurs qui participent.
Oui,
donc là, ce sont des épreuves qui
vivent. Ce sont les mêmes coureurs, mais ce sont pas obligatoirement les mêmes acteurs au plus haut niveau.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est la haute montagne qui fait véritablement la différence au niveau des notoriétés. Mais bon, Paris-Roubaix est une course par, mais si vous savez, vous pouvez demander aux gens qui a été sur le podium l'an dernier, on va vous le dire. Si vous demandez à ces mêmes personnes qui a été sur le podium de Paris-Roubaix, je suis pas sûr que vous ayez une réponse, même pour le vainqueur, 6 mois après. Donc c'est bien le Tour qui est l'élément moteur, mais c'est logique puisque, on le dit, et c'est une vérité, le Tour est le troisième événement mondial sportif au monde, avec un avantage énorme. Il se déroule tous les ans et non pas tous les 4 ans, sachant qu'il y a les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. Donc le Tour, c'est un retour pour investissement absolument. Ouais. Et c'est là où il se fait. Et c'est là où Cofidis, j'ai presque envie de dire, a mis tous les œufs dans le même panier avec Nasser Bouani. Je juge pas du bienfait ou de la stratégie qui a été mise au point. Sauf que quand vous avez cet accident avec donc l'arrêt au bout de quelques étapes, c'est une grande partie de l'investissement qui ne sera pas rentabilisé, mais... ou tout du moins par rapport à ce qui était prévu. L'avantage, c'est qu'il est là pour 2 ans, donc il va se remettre. Et déjà, je pense que sur le prochain Tour d'Espagne, il va aller en chercher quelques-unes.
Mais Fred, c'est difficile. Elles sont rares les équipes qui peuvent avoir plusieurs objectifs dans un Tour de France.
Oui.
Un garçon pour le général, un autre pour les sprints. Ou il y a quoi comme équipe?
Il y a peut-être Tinkoff avec
Contador et Sagan.
Contador et Sagan. Je voulais effectivement évoquer le cas de Tinkoff, parce qu'on a entendu Stéphane Auger, le directeur sportif de Cofidis, parler d'un Tour qui doit redémarrer. On se remet dans une nouvelle dynamique. On se lance dans les échappées et on l'entendait en parler avec le sourire, avec le sourire. Alors effectivement, Stéphane Auger, gars du Sud-Ouest, est plutôt à dominante, à caractère jovial. Mais il est arrivé par le passé que certaines équipes, dépouillées de leur leader par les circonstances de course ou par la méforme de ce dit leader, se soient libérées. Et le fait de perdre un unique leader, un unique pôle d'attraction, libère les autres coureurs, libère la tactique. Souvenez-vous, l'an passé, pas plus tard que l'an passé, Tinkoff avait brillé après qu'Alberto Contador se soit retiré de la course avec des victoires d'étape pour Michael Rogers, 2 victoires d'étape pour le Polonais Rafał Majka, le maillot à poids en prime. Alors oui, il n'y a pas eu de Contador en haut du classement général l'an passé, mais Tinkoff Saxo a fait un tour du tonnerre en ce moment. Sagan et Contador cohabitent chez Tinkoff. Peut-être que Peter Sagan, le Slovaque, nous fera mentir tout à l'heure, mais c'est assez compliqué de courir 2 lièvres à la fois pour une seule et même équipe.
Parfait, on va aborder d'autres questions évidemment dans l'intégral tour et notamment la question du jour avec nos confrères du Parisien aujourd'hui en France, puisque Lionel Chamy, journaliste émérite du Parisien aujourd'hui en France, vient d'entrer dans notre petit camion. Salut Lionel.
Bonjour à tous.
Ça va?
Bonjour Lionel.
Ça fait une belle route. Elle est belle la Normandie?
Bah ouais, et puis la pluie fait relâche aujourd'hui, donc c'est pas mal.
Il n'y a pas que la pluie, hein, les coureurs aussi. Hein,
et comme on les comprend.
Oh oui. Après ce qu'ils ont donné pendant 5 jours. Alors, la question, on se l'est déjà posée hier, mais on va se la poser à nouveau aujourd'hui, parce que cette étape pourrait arriver au sprint et plus vraisemblablement celle de demain. On l'évoquait il y a quelques instants, Nasser Bouhanni a donc quitté le Tour de France. C'était quand même, il faut bien le dire, la plus sérieuse chance de victoire française au sprint, mais il reste encore des sprinters. Alors, est-ce que sans Bouhanni, une victoire française au sprint est encore possible dans ce Tour de France? On a évoqué Brian Coquard, Arnaud Démare. Lionel, on va commencer avec toi. Est-ce que toi tu crois à une victoire au sprint? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de victoire française au sprint sur les routes du Tour. Hein.
Ouais, je crois que j'entendais ce matin que la dernière remontée à celle de Jimmy Casper en 2006 à Strasbourg, lequel Jimmy Casper est gratigné un peu Nasser Bouhanni. Nasser Bouhanni, d'abord, il n'était pas très sûr de gagner une étape, hein, dans le contexte des sprinteurs présents sur le Tour de France. Alors sans lui, pour un pur sprinter, j'ai peur que ça soit compliqué. À l'évidence, Arnaud Démare pas à maturité. Brian Coquard est jeune aussi. Alors je suis pas en train de vous dire que je crois pas en une victoire d'étape française, mais dans un sprint massif. J'ai un peu des doutes.
Oui, ouais. mais les circonstances de course peuvent faire qu'un coureur fait tilt comme ça. Ça tombe derrière à 300 mètres de la ligne. On retrouve 3-4 coureurs qui se détachent. C'est arrivé et ça arrive toutes les semaines sur des courses de vélo. Si on est bien placé, ça peut sourire.
Alors souvent aussi, les victoires au sprint pour les Français, ou en tout cas pour ceux qui ne sont pas forcément les tout meilleurs sprinteurs du monde, arrivent un peu plus tard dans le Tour de France, en troisième semaine. C'était pas le cas par le passé, lorsque la montagne a fait son... En effet, lorsque les abandons sont un peu plus nombreux, là, a priori, il n'y aura pas beaucoup d'étapes au sprint après la montagne, puisqu'on le rappelle, la dernière étape, c'est le sommet à l'Alpe d'Huez. Derrière, il y aura les Champs-Elysées, mais sur les Champs-Elysées, c'est rare que les sprinteurs gagnent. Cyril, est-ce
non, que les Français gagnent.
Que les Français gagnent, pardon. Les sprinteurs,
le dernier, c'était Jean-Patrick Nazon, me semble-t-il. C'était avant la victoire de Jimmy Casper.
Je pense que tu auras Valence, mais encore.
Entre les deux massifs, il y aura effectivement valant. Cyril, aujourd'hui on le disait tout à l'heure, tu t'adressais à Brian Coquard, à la formation Europcar, qui a peut-être une chance aujourd'hui d'aller décrocher une victoire, parce que c'est pas un sprint massif, c'est pas un sprint pour Greipel ou pour Cavendish, mais il n'y aura pas beaucoup d'occasions, il ne va pas falloir les gâcher en route. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors bon, on condamne peut-être un peu vite hein, Greipel et puis Cavendish, parce que lorsqu'on regarde bien cette dernière difficulté, elle est quand même moins difficile que ce que nous annoncions ou ce qu'on nous a donné comme référence pour cette bosse, puisque bon, elle part à peu près 1,5 km de l'arrivée, mais à 400 mètres de l'arrivée, non seulement c'est plat, mais ça redescend même légèrement, ce qui fait que si des coureurs comme Greipel ou Cavendish arrivent à basculer à 25 ou 30 mètres des premiers coureurs et qu'ils ont encore un équipier pour se mettre à la planche et le mettre sur orbite, ils peuvent ça peut encore le faire. Coquard aujourd'hui, c'est quand même un des coureurs qui a un rapport poids-puissance qui sur ce genre d'ascension peut passer. Il peut passer et il peut se retrouver qu'en 10-12e position. Bouhanni serait passé là sur une côte comme celle d'aujourd'hui. Parce que là aussi il y a toujours ce rapport poids-puissance qui fait que quand on est un sprinter aussi vite que tous les meilleurs sprinters, mais qu'on est plus léger, on s'entame moins dans la montée, on a donc encore du gaz quand on arrive sur les 200 mètres, les 200 derniers mètres. Donc Coquard, oui, c'est possible, encore qu'il a peut-être mal petit peu à un genou, ça il faudra voir, mais Brian Coquard est une belle chance pour nous, au même titre d'ailleurs, comme j'ai vu l'ascension telle qu'elle est là, au même titre qu'un Tony Galopin voire peut-être un Barguil qui est actuellement sur coussin d'air.
Lionel Chamy du Parisien, tu étais ce matin au départ, t'as vu les Français dont on est en train de parler?
Je les ai aperçus, je leur ai pas parlé directement, mais moi je rejoins absolument ce que dit Cyril. Hein. Je pense que des coureurs qui ne sont pas catalogués comme sprinteurs peuvent tout à fait gagner ici au Havre et puis à Mur de Bretagne, même si là la concurrence est rude. Hein.
Oui.
Il y a aussi des sprinteurs type Degen Kolb et Sagan qui passeront aujourd'hui, qui passeront sans compter les plus punchers des favoris. Hein. Je pense à Valverde, à Nibali qui peuvent vouloir inverser la tendance des Murs de Bretagne.
Van Avermaet, c'est une belle arrivée.
Aussi également. Ouais. Philippe Gilbert aurait été là, il nous aurait fait le coup du Coberg à attaquer dans l'ascension et à essayer de finir seul. Peut-être que son coéquipier de BMC, effectivement, vous en parlez, Greg Van Avermaet, peut nous faire ce coup. Vous parliez de Valverde, sachez qu'il est allé tâter du bitume, le coureur espagnol de la Movistar, tout à l'heure après une pause pipi. Il est reparti, il a glissé sur les graviers, ça arrive même aux champions. Il est un peu éraflé, mais ça va bien pour le Murcian de 35 ans.
Très bien, optimiste pour les sprinteurs français d'ici la fin du tour, Lucho.
Quand on regarde un petit peu en détail la suite du tour, il n'y a pas grand chose, hein. Franchement, même je te disais Valence, il y a un petit col avant d'arriver à Valence, il va falloir que les sprinteurs le passent et ça va pas être évident du tout. Les occasions qui vont se présenter, il y en a pas, ouais. Pratiquement plus.
Okay. Bah, moi je vois bien Arnaud Démare en claquer une, ouais. Peut-être pas aujourd'hui mais demain
demain c'est une étape pour les sprinteurs purs, hein.
Oui. Et comme Thibaut Pinot est loin au général, peut-être qu'à la FDJ on va mettre du monde autour d'Arnaud Démare, ouais. On l'a entendu hier juste après la ligne d'arrivée, il ne fait que 7e du sprint hier, mais il avait le sourire, on a senti un regain de confiance, un enthousiasme, ouais, qui peut promettre.
On évoquait tout à l'heure les équipes qui ont plusieurs coups à jouer, c'est le cas de la FDJ, il y avait Thibaut Pinot, il reste Arnaud Démare et puis il reste Thibaut Pinot pour des victoires d'étape évidemment, mais là ce sera en montagne, sur les sprints ça sera plus compliqué pour lui. Très bien, merci Lionel d'être venu dans notre petit camion, donc on garde l'espoir, on garde le sourire. Ah, ce sera pas aussi bien que l'année dernière pour les Français, ça c'est certain, mais il y a encore de belles choses.
Ouais, mais il reste deux bonnes semaines, donc ouais. Il peut arriver plein de choses, y compris des bonnes.
Et on l'espère. Merci Lionel Chamy. À lire demain les excellents papiers de Lionel et toute son équipe dans le Parisien aujourd'hui en France. Tu sais déjà de quoi vous allez parler, non?
Écoutez, on va notamment, on est allé à la rencontre de l'équipe Bretagne Séchée Environnement, comme on s'est dit que c'était une bonne opportunité d'aller les voir, étant donné qu'on arrive en Bretagne. Voilà.
Très bien. Merci Lionel. À demain pour une nouvelle question du jour.
Salut
dans l'après-midi, dans l'intégral tour. Fred, rapidement, un point de la course. L'avance des échappés est en train de fondre sous le soleil normand.
Et oui, puisque les Giant Alpecin de John Degenkolb et les Lotto Soudal du maillot vert, André Greipel, le sprinter allemand imbattable depuis le départ du tour avec déjà deux étapes dans son escarcelle, ont pris la tête du peloton et à 63 km de l'arrivée à l'approche de Fécamp, le trio tête Perrick Kemener, et Kenneth Van Bilsen et Daniel Tecklaymanot ne comptent plus que 2 minutes 50 au dernier pointage. On est à 63 km de l'arrivée.
63 km de l'arrivée sur les belles côtes normandes le long de la Manche avec Étretat et l'arrivée tout à l'heure au Havre. C'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu de société L'échappée infernale, le livre Parlons vélo de Marc Madiot aux éditions Talents Sport. Et nous vous offrons également une journée de rêve pour deux personnes pour l'étape du 22 juillet entre Digne et Pralou. Au programme, le transport aller-retour depuis votre domicile, le transfert sur la route du Tour en véhicule officiel, le déjeuner, l'accès au bus VIP à proximité de la ligne d'arrivée, la nuit d'hôtel et la cerise sur le gâteau, 20 minutes de vol en hélicoptère au-dessus de la course. Vous allez vous régaler pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Appelez-le 3216, touche 6 ou envoyez le mot-clé RMC par SMS au 73216. Bonne chance.
Une étape en VIP avec Bosch Car Service, partenaire technique du Tour de France.
Voilà, 16h24, 62 km à parcourir. On flâne aujourd'hui, on lambine en route sous le beau soleil normand avec la Manche au pied des coureurs. A tout de suite, l'intégral tour revient dans quelques instants.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour de France, sixième épisode aujourd'hui de ce Tour de France entre Abbeville et Le Havre. 191 km parcourus. Il en reste encore une petite soixantaine, mais on a pris beaucoup de retard, vous le savez. Le peloton se repose aujourd'hui après avoir beaucoup donné dans les cinq premières étapes de ce Tour de France. Il faut dire que les conditions sont parfaites aujourd'hui pour faire une petite balade à vélo. Le paysage est beau, les filles sont belles sur le bord de la route, le soleil brille, il y a un petit peu de vent, mais pas trop non plus. Et ce soir, on arrive donc au Havre, enfin ce soir, plus exactement aux alentours de 17h45, heure estimée de l'arrivée de cette sixième étape. Un nouveau point sur la course, le top course de Fred Adam. Et ensuite, on va ouvrir la musette de la Dream Team d'RMC.
RMC, top course.
Avec 60 km à parcourir encore sur cette sixième étape entre Abbeville et Le Havre, les équipes de sprinteurs viennent se positionner à l'avant du peloton et l'avance du trio de tête plafonne désormais à 2 minutes 45. Perrick Kemener, le français de l'équipe Europcar, Kenneth Van Bilsen, le belge de l'équipe Cofidis et Daniel Teklaimanot, un coureur érythréen de la formation MTN Kubeka. Ces trois-là comptent 2,45 donc à 59 km de l'arrivée dans la traversée de Saint-Pierre-en-Port. Nous sommes au bord de la mer avec la Manche sur la droite et le vent qui souffle très modérément. Pas sûr que ça puisse occasionner des bordures.
La moto RMC qui s'est arrêtée pour laisser passer le peloton. Georges Quirino sur la moto RMC.
Exactement, on est dans un virage et voilà le peloton devant nous emmené par les Lotto Bellisol, Thomas Degent qui l'a notamment, Tony Galopin également qui protège et bien André Greipel, Vincenzo Nibali dans les 20 premières positions. Le peloton est là juste à notre droite, on est en train d'être doublé. On voit les coureurs avec Jérémy Roy qui est un peu derrière, Thibaut Pinot également dans les dernières positions de ce peloton avec Dan Martin notamment de la formation Garmin, le récent vainqueur, le vainqueur l'année dernière de Liège-Bastogne-Liège qui est dans les dernières positions. On voit quand même les coureurs qui sont tombés hier. Il y a beaucoup de pansements, de filets sur les bras, sur les genoux. On sent un peloton qui a aussi besoin de récupérer un petit peu des grosses journées de la veille. Et on voit que c'est une journée un peu plus tranquille. Tiens, le directeur sportif de la formation Sky, Nicolas Portal, qui vient de nous croiser avec un grand sourire. Ouais, il y a des sourires aujourd'hui. C'est pas la tension que l'on avait vue hier, très certainement. Aujourd'hui, sous le soleil, avec la pluie en moins par rapport à hier, forcément, les esprits sont un peu plus calmes sur la route du Tour.
Très bien. Alors, ouvre bien tes yeux, Georges, car il y a, paraît-il, un grand champion français qui se trouve sur le bord de la route, aux alentours de Fécamp. Il fait son camp à Fécamp, un camp de basket, tu vois, de qui je veux parler. Un grand, grand, très grand sportif français.
Est-ce que ce serait pas quelqu'un qui a une grosse voix un peu comme ça?
Non. Lui, non, il est au Pays Basque. Ah, les pieds en éventail au bord de la piscine. C'est Tony Parker qui, a priori, serait sur les bords de la route du Tour aujourd'hui. C'est une information que me communique Ludo Languet, qui connaît bien Tony Parker, évidemment. Ludo qui bosse avec nous à RMC. Donc, sait-on jamais. Si tu le vois, tu peux t'arrêter, évidemment. Lui poser une ou deux questions. 58 km de l'arrivée.
Peut-être qu'il prendra la moto, hein, sinon il peut peut-être me remplacer pour les derniers kilomètres. Hein.
Ouais, tu peux aller jouer au basket, bon t'as pas vraiment le gabarit, mais allez, ouais, d'un petit meneur, sait-on jamais. La musette, messieurs dames, nous allons voir ce que vous avez ramené aujourd'hui comme petite information. Du coup, comme Lucho n'a pas ramené à bouffer, j'espère qu'il a des informations à nous ramener dans la musette. C'est l'heure de la musette.
RMC Intégral Tour. La musette.
La musette, tout le monde est mis à contribution. Les journalistes, les commentateurs, les consultants, il y en a qui bossent, il y en a qui bossent un peu moins, il y en a qui sont efficaces, d'autres qui le sont moins. Mais il y en a un qui est efficace. C'est un chasseur d'infos. C'est Pierrick. Pierrick pour les intimes, Pierrick Ten, notre chasseur d'infos. Alors lui, il ramène toujours des infos de premier plan.
Bah, il ramène ce qu'il peut, hein.
Voilà, ce qu'il peut.
Comme tout le monde autour de cette table.
C'est des infos, en tous les cas, de bonnes infos. Ça va, Pierrick?
Bonjour, ça va, Christophe, bonjour à tous.
Alors, dans ta petite musette, trouvons-nous?
Alors, ce matin, on est allé faire un tour du côté de la FDJ parce que hier soir, on a été alerté par un tweet de Julien Pinot, l'entraîneur de la FDJ, frère de Thibaut Pinot, qui s'interrogeait, qui se questionnait de voir son frère contrôler aux alentours de 22h30 hier soir à l'hôtel. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est ça qui avait causé un peu l'agacement de l'entraîneur, ou est-ce que c'était peut-être autre chose car il a fait une comparaison avec Richard Gasquet. Voilà, aussi étonnamment que ça puisse paraître. Tout simplement parce que certains de nos confrères avaient sorti une interview après la qualification de Richard Gasquet après les quarts de finale à Wimbledon au sujet des infiltrations. Donc on a posé la question à Julien Pinot, on lui a demandé si ça l'avait un peu fait sourciller de voir justement son frère être contrôlé à 23h.
Ah non, pas du tout. Ce qui m'a plus fait tousser, c'était l'article dans l'équipe de la veille. Gasquet prônait l'utilisation des infiltrations pour jouer. C'était plus ça qui choquait, mais c'était plus pour mettre en avant que justement nous dans le vélo, on est fiers de lutter à bloc contre le dopage. Les médias, pour eux, c'est normal qu'ils soignent. Ribéry, c'est pareil. On est au MPCC, on est contre ce genre de choses. Pour nous, ça, c'est du dopage. C'est plus la différence de traitement que je mets en avant, plus que les contrôles. Les contrôles, 23h, 7h du matin, nous, on est pour. Et on est fiers que le vélo ait changé et soit à la pointe par rapport à ça.
Voilà, Julien Pinot, effectivement, la différence de traitement entre les sports, c'est vrai que...
La différence médiatique et la différence des fédérations. Il a insisté sur les deux. Hein. C'est vrai qu'il reproche peut-être aux médias de s'intéresser plus aux cas de dopage dans le vélo et également à certaines fédérations de travailler plus que d'autres.
Alors, les infiltrations sont autorisées dans certains sports. C'est le cas en tennis, Fred. Mais en matière de cyclisme, on n'a pas le droit de faire des infiltrations. Hein. C'est de la cortisone, a priori.
Alors, c'est le cas pour les équipes qui sont alliées au MPC. C'est le mouvement pour un cyclisme crédible. On a banni le recours aux infiltrations, donc pas de cortisone. Ça avait causé des émois au départ du Tour à Utrecht avec ce taux de cortisolémie effondré chez Lars Boom. Au MPCC, on n'accepte pas. Et Julien Pinot, il faisait allusion dans l'interview qu'on vient d'écouter. L'infiltration, cela permet au corps de lutter artificiellement contre la douleur. Et c'est vrai que ça va un peu à l'encontre du sport santé. Là, clairement, chez Gasquet et plein d'autres sportifs, on est dans le sport performance. Certaines équipes cyclistes ont décidé de faire l'économie du sport performance parce qu'il y a un blason à redorer, une image à redorer dans le vélo.
Le MPCC, il y a que dans le cyclisme. Il n'y a pas de MPTC, par exemple, mouvement pour un tennis crédible.
Non,
ça n'existe pas.
C'est pas prévu encore.
Ni pour le football, il n'y a pas de MPFC.
Il faudrait peut-être déjà commencer à faire des contrôles crédibles déjà.
Dans les autres sports, tu veux dire, Cyril ?
Ben oui, bien sûr, bien sûr.
Ouais. Le MPCC, justement, qui va un peu plus loin, justement, que toutes les règles édictées par l'UCI,
qui va un peu plus loin, mais enfin, les respecte qui veut, hein, ces mesures. On a bien vu ce qui s'est passé
avec
Astana.
C'est sur la base du volontariat.
Voilà, donc on est volontaire, mais lorsque ça nous arrange pas, on n'est plus volontaire. Donc on sort du MPCC. Bon, après, c'est vrai que la différence de traitement, elle est évidente. Hein. C'est d'ailleurs l'un des alibis du cyclisme, Lucho. On dit souvent, ouais, mais allez voir, je me rappelle très bien t'avoir entendu dire ça, allez voir un peu chez les autres au lieu de regarder toujours ce qui se passe dans l'assiette des coureurs.
Non, mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le nombre de contrôles qu'il y a tous les ans dans le cyclisme, on est le sport le numéro un au niveau des contrôles antidopage sur la saison, sur l'année sportive. Après, quand tu regardes au niveau des résultats des contrôles positifs dans le monde du sport, le vélo arrive en sixième position au niveau des contrôles positifs. Alors, bon, c'est vrai qu'à un moment donné, on se pose la question, pourquoi on en veut toujours au cyclisme et dès qu'il y a un cas suspect, on en fasse des pages, sachant que c'est le sixième sport où il y a le plus de contrôle positif et c'est le premier sport le plus contrôlé au monde. Donc voilà, c'est simplement on n'est pas là pour jeter la pierre aux autres, mais on est là pour que ça soit efficace dans tous les sports et que ça soit les contrôles soient exactement opérationnels dans tous les sports comme dans le vélo.
Fred, un petit mot sur ce qui va se faire en matière de contrôle antidopage et surtout de surveillance, puisque dans quelques semaines, enfin depuis quelques mois, le code mondial antidopage est entré en vigueur et ce code mondial antidopage va permettre aux contrôleurs d'effectuer des contrôles de nuit. C'est pas encore le cas en France, mais ça va le devenir d'ici quelques semaines a priori.
Il est en perpétuelle adaptation, ce code mondial antidopage. Vous savez que les tricheurs ont toujours un coup d'avance sur les inspecteurs, c'est bien connu et cela dure des années et on peut penser que cela durera pour l'éternité. C'est vrai que suite à un rapport qu'avait commandé l'Union Cycliste Internationale à une commission indépendante, un rapport publié au mois de mars, on a bien vu après que des spécialistes de de tous bords et publié, je crois, un rapport de 237 pages. C'était un vrai pavé à dépouiller, exactement, à inspecter. Ben voilà, on s'est rendu compte qu'il faudrait probablement, pour avoir une lutte contre le dopage crédible, instaurer des contrôles à partir de 23h, ce qui n'était pas autorisé. Ça devrait l'être après.
Même en compétition, c'est-à-dire pendant le Tour de France, bien lorsqu'on sûr. A fait une étape de 220 km, on rentre à l'hôtel, on se fait masser, on mange, on se couche, et ça peut arriver comme
en
ça à 2h du matin.
Oui, parce que certains coureurs, on s'en est rendu compte, et c'était préconisé dans les recommandations du rapport de la commission indépendante. Certains coureurs ont recours à ce qu'on appelle des microdoses d'EPO, des microdoses qui font effet à retardement, mais qui sont contrôlables sur une fenêtre de tir très courte, très, très brève. Donc on peut se faire une injection de microdose à 23h et ne pas être positif à l'EPO
le lendemain matin,
à 6h30 du matin.
Oui,
exactement.
D'accord.
Voilà pourquoi, à partir de la fin du Tour de France, le 1er août, me semble-t-il, Pierre-Yves, on devrait avoir droit à des contrôles de nuit, même si Brian Coxon, à la veille du départ du Tour de France, a déclaré que ça y est, il y avait eu les premiers contrôles by night dans le cyclisme.
C'est pas possible en France avant le mois de septembre, avant que le Conseil d'État valide ça. Donc il va falloir légiférer.
Question de liberté individuelle, je crois.
Voilà, exactement.
On s'appuie là-dessus.
Mais il faut encore attendre un petit peu en France.
Bon, je sais pas si Richard Gasquet sera contrôlé de nuit en Angleterre avant sa demi-finale demain, ou Joko, ou Murray, ou les autres, ni même les stars du ballon rond. C'est vrai que les coureurs cyclistes sont très souvent contrôlés, mais ils payent malheureusement la mauvaise réputation et les affaires qui ont émaillé ce sport cycliste pendant de nombreuses années. En tous les cas, la lutte est là et ça rend sa crédibilité au cyclisme. Voilà donc pour la musette de Pierrick. On va continuer notre petite musette. Pierre-Yves, notre barbe breton, de quoi vas-tu nous parler ?
Mais pas de barde, de barbe.
De barbe.
De barbe.
Tiens, tiens.
Et oui, parce que au village départ, il y a une nouveauté. Il y a eu un coiffeur pendant des années.
Ouais,
et
c'est
puis comme
vrai.
Il y a de moins. Oui, tu te souviens, Lucho ?
Oui, j'y avais été une ou deux fois.
Et oui. Et puis comme toi, il y a de plus en plus de gens qui perdent leurs cheveux.
J'ai plus besoin d'y aller. C'est ça. Regarde-moi comme. Attends, il me regarde à la loupe, Christophe là. Mais oui, j'ai besoin d'y aller.
Il n'y a plus de coiffeur.
Avoir les cheveux longs, moi.
Il n'y a plus de coiffeur parce que les gens perdent leurs cheveux. Donc il y a un barbier désormais, un barbier qui s'appelle Hervé Boipseau et qui accueille aussi les coureurs, et ça commence à apprendre. Alors il y a les gens du village de départ, et puis à partir d'une certaine heure, c'est réservé aux coureurs. On a vu passer Jérémy Roy par exemple. Mais ça dépend du moment du départ de l'étape, mais dans l'heure qui précède le départ. Et il y a un certain nombre de coureurs qui passent effectivement voir le barbier, donc c'est assez amusant, c'est assez surprenant également. Hervé Boipseau, barbier du Tour de France qu'on écoute.
Il y a quelques barbus dans le peloton. Après, jusqu'à maintenant, on a eu plutôt des barbes de 3 jours et plutôt des choses comme ça que vraiment des barbus. On attend les gros barbus d'ici peu. Du coup, on a essayé d'adapter un petit peu à l'idée du Tour de France. Donc, on a donné quelques noms pour nos tailles de barbe. Donc, on a la ligne d'arrivée qui est juste la moustache. On a la grande boucle qui est le bouc. Et après, la plaine qui est la barbe plutôt des cyclistes, la barbe de 3 jours.
Voilà, donc différentes formes de barbe.
Il n'y a pas de barbe à la Chabal encore hein, sur le Tour de France.
Non, mais il y a quand même des bons barbus. Hein, ça commence à
les poils, normalement, les coureurs cyclistes ne font pas exemple. Bon ménage. Hein, normalement, les poils, les coureurs cyclistes n'aiment pas ça.
C'est pour les jambes, vous voyez, en cas de chute. Ouais,
et ils coupent les cheveux aussi.
C'est un barbier, Lucho.
Oui, je sais bien, mais il y a un barbier à Brive-la-Gaillarde qui coupe les cheveux aussi.
À Brive-la-Gaillarde, peut-être, mais pas sur le Tour de France.
Il taille la barbe et il coupe
la
les
barbe.
Cheveux aussi.
Et tu te fais
barbe,
t'es barbant,
tu
Luc.
Fais le maillot aussi, Luc, avant de départ du Tour.
Comment ?
Non, rien.
J'ai pas entendu.
Tu avais d'autres choses à nous dire, mais c'est
non, voilà, c'était le barbier.
Bon barbier. Très bien. Le barbier de.
Pas de Séville.
Pas de Séville, le barbier du Tour. Donc, Fred.
Oui, changement de physionomie sur la course à 50 kilomètres de l'arrivée, le trio tête voit son avance fondre. Kemener le français, Van Bilsen le belge, Teklay Manot l'érythréen ne compte plus qu'une minute cinquante sur le peloton à l'avant duquel on a vu toutes les équipes de grands leaders se positionner et hausser le ton pour de bon, parce qu'on arrive dans le final de l'étape, parce qu'on arrive sur des routes exposées au vent qui vient de la Manche sur la droite de la route en direction du Havre. On ne veut pas se faire piéger et on veut protéger ses leaders. Yeah. Le final risque d'être agité.
Ok, la musette, on continue. Nous sommes à 50 km de l'arrivée, donc une 47, on vous le disait. Avec Fred, on va demander à Cyril ce qu'il a dans sa musette. Il nous a bien ramené un petit quelque chose, le druide, quand même.
Ah ben oui, bien sûr, j'ai trouvé un petit truc qui traînait, mais je pense d'ailleurs que vous l'avez vu, puisque Frédéric disait tout à l'heure qu'il épluchait, j'ai eu peur d'ailleurs quand il a dit ça, qu'il épluchait bien sûr les communiqués des classements, des commissaires. Alors j'ai vu qu'il était parti sur les commissaires. Eh bien moi j'ai trouvé aussi dans les communiqués quelque chose d'assez surprenant, enfin surprenant. Pour le commun des mortels, pas pour nous parce qu'on sait comment les choses se passent, un communiqué de la direction du Tour de France. Et cette direction nous fait donc le communiqué suivant. Ayant constaté des infractions au code de la route et aux règles du Tour de France...
On a la même musette, Cyril, je crois.
Le ministère de l'Intérieur et la direction du Tour tiennent à rappeler l'impérieuse nécessité de respecter scrupuleusement toutes les consignes de sécurité. On a un deuxième alinéa. La commission de sécurité du Tour de France prendra toutes les mesures nécessaires pour préserver, tenez-vous bien, la sécurité des coureurs, des spectateurs et des suiveurs. Des sanctions pourront aller jusqu'à l'exclusion définitive du Tour de France. La sécurité, bien sûr, toujours, est l'enjeu majeur de l'organisation de l'épreuve. Alors, c'est assez amusant parce que vous savez que le code de route, donc là c'est confirmé, le code de route régit bien la circulation, même si la route est privée, s'il y a l'usage privatif, c'est donc bien le code de route qui prime. Eh bien, pour l'instant je n'ai rien vu, aucun communiqué disant on va respecter le code de route, puisque les coureurs ont le droit de rouler avec les oreillettes, ce qui est interdit. Les directeurs sportifs peuvent parler donc, tout en conduisant. Qui est une forme qui est de la téléphonie.
Ils peuvent même regarder la télé en conduisant d'ailleurs.
Oui, et là ils prennent 3 points s'ils sont pris à regarder la télé.
Ah, oui.
C'est dans le règlement effectivement de l'épreuve, parce que je l'ai aussi bien regardé. Ce qui veut dire que pour la sécurité des coureurs, on est capable de mettre effectivement un certain nombre de pénalités et de faire respecter le code de route. Sauf que pour la sécurité des coureurs, on les laisse avec les oreillettes, bien sûr, dans l'oreille, où pratiquement pendant un quart de l'étape, ils sont en communication, on va dire, presque permanente, et sans qu'il y ait la moindre... Or, la sécurité des coureurs imposerait, puisque toutes les études qui ont été faites sur le téléphone, toutes les études qui ont été faites disent que c'est dangereux.
Le combat du druide contre les oreillettes. Ah, le combat vient se nicher partout.
Ah, ça n'est pas un combat maintenant, puisque c'est le code de route que je demande à faire respecter.
T'as d'autres codes à nous donner? Pardon? T'as d'autres codes Cyril?
Très bien, on continuera la musette dans quelques instants, mais on va s'interrompre une petite minute, juste le temps de
ça
donner
fond,
donc
l'avance des trois coureurs de tête, Teklay Manot, l'Érythréen, Van Bilsen, le Belge et Kemener, le Français, n'ont plus qu'une minute 20 d'avance sur un peloton qui a accéléré à 47 km de l'arrivée. On revient dans quelques instants après la pub avec un ancien coureur fraîchement retraité. Il est breton, il a couru au Crédit Agricole, à la Française des Jeux, chez Cofidis. Devinez de qui il s'agit.
Faites vos propositions, on vous donne la solution juste dans quelques instants. 16h46 sur RMC, à tout de suite. Voilà, un peu moins de 47 km à parcourir, Fred. Et effectivement, nos trois échappés au long cours n'ont plus que quelques minutes à passer en tête, car derrière, évidemment, on a commencé à accélérer à 46 km de l'arrivée. On est encore loin de cette arrivée. Mais bon, ça va pas durer longtemps, cette histoire.
Oui, on va un peu hausser la moyenne qui était de 37 km heure environ jusqu'ici. Évidemment, les 50 derniers kilomètres vont être plus agités et ça va être le cas pour les sprinteurs qui vont tenter de se positionner au mieux avant l'arrivée au Havre ici, même si l'arrivée est précédée d'une montée de 850 mètres à 7%. Ce sera dur de passer compliqué pour tout le monde. Certains sprinteurs seront hors jeu à 450 mètres de la ligne d'arrivée, mais aujourd'hui il y a encore une opportunité pour sprinteurs. Mais depuis quelques kilomètres, on voit les équipes de leaders se positionner à l'avant, les BMC de Vanguard RN, troisième au général, les Astana de Nibali, les Tinkoff Saxo de Contador. Christopher Froome reste toujours vigilant. On est à 46 km de l'arrivée à Saint-Léonard exactement, lieu du sprint intermédiaire, à ne pas confondre avec Saint-Léonard de Nobla, la patrie de Raymond Poulidor, en Limousin. Le sprint intermédiaire où l'on pourrait avoir dans une minute environ une explication, un avant-goût du sprint final avec des points distribués pour le maillot vert. André Greipel est toujours le leader du classement par points, on vous le rappelle. 1 minute 5 secondes d'avance pour Kemener, Van Bilsen et Tecla Imanot. Tecla Imanot, un coureur révélé sur les routes du Critérium du Dauphiné pour le grand public, mais un coureur qui a déjà fait ses preuves sur le continent africain. Une véritable icône pour les rares cyclistes africains, lui qui est érythréen, le premier érythréen à prendre le départ du Tour.
Allez, à tout de suite sur les routes du Tour, l'intégral revient dans un instant.
Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'intégral Tour à 44 km 300 de l'arrivée au Havre avec, on vous le rappelle, toujours trois hommes en tête, trois hommes qui n'ont plus qu'une cinquantaine de secondes d'avance. Et ce peloton d'où vient de sortir, tel un diable sorti de sa boîte, un certain Thomas Vauclair, Fred.
Oh oui, l'ancien maillot jaune, l'ancien multiple champion de France également, Thomas Vauclair, leader de la formation Europcar, qui, on vous en parlait il y a quelques secondes, cet extrait du peloton à l'occasion du sprint intermédiaire. Il a emmené le sprint pour son équipier Brian Cocard, qui a terminé deuxième sur la ligne de Saint-Léonard derrière Degen Kolb et devant Greipel. Thomas Vauclair avait pris quelques longueurs d'avance, s'était fait devancer par les purs sprinteurs. Les sprinteurs se sont relevés. Thomas Vauclair a insisté. Il est en train de partir en contre-attaque derrière le trio de tête que menèrent le Français, Van Bilsen le Belge et Tecla Imanot l'Érythréen. On est à 43 km de l'arrivée.
Cyril Guimard, notre druide, tu l'avais pas noté tout à l'heure dans ton briefing, ça. Tu l'avais pas conseillé à Thomas Vauclair de sortir comme ça, de s'extraire du peloton et d'aller chercher pourquoi pas cette victoire en solitaire.
Non, parce que ça rentrait pas dans les plans, c'est normal. Mais là, vous savez, Vauclair, c'est un électron libre que l'on ne maîtrise absolument pas. Et j'ai l'impression, quand je vois les images d'ailleurs, qu'au milieu de ce peloton, il était un petit peu asphyxié. Donc vous avez vu, il a pris à peu près 150 mètres d'avance. Et maintenant, il a la bouche grande ouverte, donc il peut respirer normalement.
Mais on sait que Thomas n'aime pas trop rouler en peloton, il aime être bien à l'arrière ou échapper, hein. Mais ça lui a réussi par le passé. Est-ce que tu considères qu'il est aussi fort que par le passé, ou c'est une tentative de desesperado là qu'il a?
Non, ça n'est pas du desesperado. Il est moins fort qu'il y a quelques années, et ça c'est tout à fait logique. Non, allez, on va être objectif. Et il fait un petit show là quand même, parce qu'il a en plus un équipier qui est à l'avant. Ils vont bientôt se faire rejoindre. Vous avez vu que les équipes de sprinters ont pris la course en main et de façon quand même ferme. Donc non, c'est un petit show qui est sympa. Ça va plaire au public. C'est
bah
bien.
Oui, Thomas Vauclair, qui d'ailleurs était très triste de s'être fait siffler l'autre jour sur les routes des Pays-Bas. Là, évidemment, il est de retour en
France. Il aime qu'on l'aime. C'est normal.
C'est un peu le cas de tout le monde, et peut-être un peu plus particulièrement des champions. Thomas Vauclair, qui a fait rêver la France du cyclisme, la France du Tour pendant de nombreuses années. 45 secondes de retard pour Vauclair, qui a quand même causé un petit écart.
Oui, regardez, le peloton ne s'en occupe pas d'ailleurs.
Ouais, ils ne sont pas du tout inquiets.
Oui, le peloton qui s'est un peu relevé. En fait, les équipes de sprinteurs s'étaient positionnées à l'avant et avaient accéléré en vue du sprint intermédiaire pour les Greipel, pour les Degen Kolb, pour Brian Cocard, pour qu'ils aillent récolter des points dans la lutte pour le maillot vert. Depuis que Thomas Vauclair est sorti, ils occupent à nouveau les coureurs, l'ensemble de la chaussée, toute la largeur. Le trio tête a repris du champ, a accéléré. Tout le monde est les mains en bas maintenant dans ce trio tête. Van Bilsen, Tecla Imanot et Perry Kemener, qui vont voir revenir Thomas Vauclair dans quelques kilomètres maintenant. Oui, ce sera dur pour Thomas Vauclair de rentrer sur le trio de tête maintenant.
Oui, alors il faut dire aussi, c'est que c'est Vauclair qui avait emmené le sprint à Cocard, là, au sprint intermédiaire.
Mais je pense honnêtement que Vauclair aurait sans doute mieux fait, on va revenir au briefing, de garder des forces pour protéger son sprinter dans les derniers kilomètres et dans la dernière ascension.
Eh oui, mais ça urge peut-être pour les petits hommes verts d'Europe Car. On sait que Jean-René Bernodeau, le manager de l'équipe vendéenne, est toujours à la recherche d'un repreneur, et peut-être que tous les terrains sont bons, même
Frédéric, soyons sérieux, c'est la victoire qui lui permettra d'aller chercher un autre sponsor.
Oui,
c'est très bien.
C'est quand même ce qu'apporte le plus.
L'attaquant à 41 km de l'arrivée, il a aucune chance.
Tiens, est-ce qu'il y a des propositions sur l'invité surprise qui a couru au Crédit Agricole, à la française, chez Cofidis et même dans une équipe étrangère?
Ah, mais ça y est, je sais qui c'est.
Ah. Est-ce qu'il y a des propositions?
Il y a une proposition.
Ah non, moi, il y a Jean-Baptiste qui nous dit Eros Rastafumeto.
Non, c'est pas lui.
Il y a Fabulous Fabinho qui nous dit Christophe Lemével. Est-ce qu'il n'aurait pas...
On s'en rapproche,
il me semble. Hein.
Christophe qu'on accueillera effectivement.
Juste après les infos de 17h, parce que là, on va s'interrompre quelques instants, laisser passer les infos et revenir évidemment avec Christophe Lemével qui nous fait l'amitié d'être avec nous. On lui dit juste bonjour, déjà. Salut Christophe.
Salut à tous.
Voilà, ravi de t'avoir avec nous. Les infos de 17h, on vous rappelle qu'il reste encore 41 km à parcourir, 1,55 d'avance pour les trois hommes de tête sur le peloton maillot jaune, mais intercalé entre les deux, un certain Thomas Vauclair qui a des fourmis dans les jambes aujourd'hui à proximité du Havre. À tout à l'heure pour la suite de l'Intégral Tour.
Skoda vous emmène sur les routes du Tour. Skoda, partenaire officiel du Tour de France. RMC, Intégral Tour.